ton boss. On en jase. À Boulevard 102.1.
13h12 minutes exactement. Continuez à réagir au 418-971-1021. On adore vous lire. Je lis la majorité des textos en ondes parce que j'aime que vous nous parliez et que vous nous donniez votre opinion. Également, n'oubliez pas, si vous avez un dossier chaud, c'est citoyen au singulier A commercial blvd.fm. Le chum Mathias Turcotte, qui est en remplacement de Max Larouche ce matin dans Marceau le matin, va regarder votre dossier, va l'amener encore plus loin et ça risque de se retrouver en ondes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des situations à décrier dans la ville de Québec, parce qu'à Boulevard 102, on est branché sur Québec, on est branché sur notre ville et on l'est d'autant plus à l'émission. On en jase. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est la meilleure façon de réécouter également nos meilleurs moments. BLVD 102.1 sur App Store et Google Play Store, c'est notre application pour nous écouter partout où vous allez. Haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD » et c'est ce qui arrive dans votre maison. Vous entendez le bon « Rock and chill » comme je fais à chaque samedi et dimanche matin. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir. On est en studio et abonnez-vous à notre page YouTube. L'excellent caucus avec Antonine Iaccarini s'y retrouve à chaque jour. Pascal, en manchette, il y a deux points de presse qui ont retenu l'attention aujourd'hui.
Oui, on a fait des annonces au-delà des nouvelles qu'on vient de faire ensemble, entre autres sur la ville de Québec et tout ça. Il y a aussi une annonce commerciale ou économique qui a été faite parce que la ville, soit de Québec, a accordé plus de 3,7 millions de dollars aux incubateurs. On veut soutenir la croissance des jeunes entreprises innovantes. Ça veut dire quoi? Ben, c'est des investissements qui vont aller dans l'écosystème entrepreneurial de Québec. Donc, on veut accompagner les entreprises qui ont un fort potentiel dans des secteurs assez stratégiques. Là, souvent, c'est technologie. Hein? Donc, technologie propre, la quantique, le numérique. Et on veut favoriser la vitalité commerciale dans les artères du territoire. Pour ça, on vient d'annoncer 3,7 millions de dollars. Deux points de presse qui ont attiré notre attention ce matin aussi au niveau du fédéral. Donc, c'est la ministre Jolie, Mme Jolie, et le ministre McGuinty et le secrétaire d'État Fur qui a annoncé 900 millions de dollars pour stimuler l'innovation dans le secteur de la défense. C'est sûr qu'on est là-dedans. L'honorable Mélanie Joly et ses comparses qui ont annoncé que le Conseil national de recherche Canada donneront 900 millions de dollars dans la stratégie industrielle de défense du Canada. C'est un plan à long terme. On veut soutenir la prospérité nationale, bâtir une économie de défense résiliente. Et dans le cadre de cette stratégie-là, le gouvernement du Canada entend accélérer le développement de ces technologies à double usage pour répondre aux besoins du pays. Ça, c'est aussi pour assurément avoir une compétitivité à l'échelle mondiale. On est assurément là-dedans, plus que jamais avec ce qui se passe à l'international. Pierre Poilievre, lui aussi, chef du Parti conservateur au fédéral, a donné un point de presse ce matin. On parlait de l'importance des pipelines. On est revenu au niveau du prix de l'essence qui pourrait bondir dans les prochains jours. On se demande si on ne va pas payer 2 $ le litre à la pompe parce qu'il se passe beaucoup de choses ailleurs dans le monde, soit des bombardements intensifs en Iran. Encore en fin de semaine, si je peux te faire un résumé de ce qui s'est passé, il y a eu des frappes massives américaines et israéliennes, donc contre des infrastructures militaires et stratégiques iraniennes, des dépôts de carburant, des installations pétrolières autour de Téhéran. Ça fait mal. Certaines zones urbaines aussi qui ont eu des dégâts importants et des pertes civiles. Il y a eu des ripostes iraniennes, donc missiles, drones tirés vers Israël. Encore des attaques contre des pays du Golfe. On parle du Qatar, Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, Koweït. Donc, le conflit commence à s'étendre à toute la région du Golfe. Changement majeur à la tête de l'Iran. Succession controversée. C'est le fils de l'autre qui a pris le pouvoir. Alors, toujours un nouveau guide suprême en date d'hier. Mojtaba Khamenei. C'est le fils d'Ali Khamenei qui a été envoyé au pouvoir. Et le conflit commence à coûter très cher. À 7 soldats américains qui ont été tués depuis le début de la guerre. Plusieurs centaines de morts en Iran selon des estimations initiales. Et le prix de l'essence qui continue de bondir, on est à plus de 120 $ le baril aujourd'hui.
Et pour en parler avec nous, on a notre excellent chroniqueur en politique américaine, Luc La Liberté. Luc, comment vas-tu?
Je vais très bien, et vous deux?
Ça va super bien. Luc, dis-moi donc, avec le prix du baril qui va se retrouver à 2 $ c'est-à-dire à la pompe, l'essence à la pompe à 2 $ parce que le prix du baril devra augmenter à peu près à 125 $US, 35 % du marché boursier qui pourrait vivre une chute. Ça va être difficile pour Donald Trump de continuer sa guerre en Iran?
C'est la question. Hein? On va, dans les sondages, d'ailleurs, on souffle plus le froid que le chaud à l'endroit de ce conflit-là. le thème qui est sur toutes les lèvres, c'est, je te dirais, c'est le mot de l'année 2026 jusqu'à maintenant en politique américaine, c'est abordabilité. On parle du coût de la vie, on parle de l'inflation. On a tassé Joe Biden parce qu'on trouvait qu'il n'allait pas assez vite, ou on a tassé les démocrates parce que, bien sûr, c'est Mme Harris qui se présentait. Mais on a voté pour Donald Trump, entre autres, pour ça. C'était un de ses c'était un fer de lance, hein, c'était un des thèmes principaux de sa campagne électorale. Et là, ben, les Américains se demandent si la stratégie est bonne. Parce que, comme nous, on le constate à la pompe, ben, les Américains le voient aussi. Le Donald Trump, dans le discours sur l'État de l'Union, ça fait pas si longtemps, dans le discours sur l'État de l'Union, parlait de cette question d'abordabilité. Et là, on semble aller dans la mauvaise direction. Donald Trump, aujourd'hui, qui a échappé une phrase assez lourde de sens, pas certain que ça va convaincre les Américains. Il a dit, vous savez, pour que les Américains soient en sécurité, que le prix de l'essence soit à la hausse, c'est un bien faible prix à payer. Il faut encore dire aux Américains pourquoi on est en Iran. On n'a aucune preuve qu'il y avait une menace, hein, réelle, imminente contre les États-Unis. Puis là, ben, on est dans un conflit qui, vous en parliez, Pascal faisait le tour tout à l'heure, mais qui non seulement enflamme tranquillement la région, mais qui, on le voit, a des retombées un peu partout à l'international. Chaque fois que le prix du baril de pétrole monte de 33 $ pour nous, ça équivaut à peu près à 20 sous de plus à la pompe. Donc, c'est comme ça qu'on arrive, aux 2 $ très, très bientôt. Alors que la semaine dernière, je payais quoi sur la route? Une et 42, une et 48, dépendamment des endroits où je circulais. Et ça, ce n'est qu'une des facettes, le prix de l'essence. Le transport aérien fonctionne avec ça aussi. Transport aérien, ça peut être vos destinations vacances. À la limite, ce serait moins grave. Transport aérien, c'est combien de denrées qu'on achemine également par là. C'est aussi, si on parle de coûts, d'inflation ou d'abordabilité, éventuellement, entre autres, on bloque le détroit d'Ormuz. Il y a un certain nombre d'approvisionnements qui passent par là, outre le pétrole. On trouve que ça nous coûte cher quand on va à l'épicerie. Hein, le prix du panier d'épicerie a grimpé, puis on met pas tout à fait la même chose dedans qu'auparavant. Ça aussi, ça va monter et éventuellement, ben, moins d'argent dans nos poches si on boucle la boucle. Donc, le président, il est en année électorale, du moins son parti l'est, parce que Donald Trump, lui, ne se représentera plus. Mais les Républicains doivent être inquiets. Donc, les Américains, bien sûr, au premier chef, au premier titre, mais les Républicains doivent se dire, semble qu'on ne tire pas dans la bonne direction.
Luc, là, on parlait beaucoup de l'économie, mais l'adhésion aussi de son pays, des gens qui votent. Ouais. Quand on entend une nouvelle comme quoi on demande une enquête, en fait, l'ONU veut une enquête rapide et transparente concernant un bombardement d'une école en Iran, et on attribue cette frappe-là probablement à Washington, donc aux États-Unis. Puis là, tu as bien des citoyens américains qui disent non, là, ça dépasse l'entendement. Une frappe qui a tué des écolières, ça ne passe pas.
Ben écoute, c'est même la guerre, point. Et là, on en rajoute. Et ce qu'on raconte là, bien sûr, ce sont des horreurs. Et des horreurs qu'on semble être en voie ou en mesure de prouver. Mais si on a voté Donald Trump, ça, c'était une autre raison pour laquelle on votait Donald Trump. C'était le président de la paix. Hein? C'était le président qui n'allait pas, qui allait éviter les nouvelles guerres. Il avait critiqué tout ce qui bougeait, qui l'avait précédé et qui avait entraîné le pays en guerre. Ça, à la limite, je pouvais comprendre. Parfois, il faut faire la guerre. Ça, c'est la réalité qu'on peut expliquer de bien des manières. Mais Donald Trump avait bel et bien promis qu'il n'y en aurait pas de nouvelles guerres. Puis là, ben écoute, on a frappé au Venezuela, on a frappé en Iran. On se demande maintenant si Cuba n'est pas la prochaine cible. Pour un président qui devait éviter les nouvelles guerres, le message, il semble assez paradoxal. Et je répète, la justification de Donald Trump, c'est parce qu'on veut être plus sécuritaire, plus en sécurité. Mais il n'y avait pas, à la lumière des informations dont on dispose, il n'y avait pas de menace imminente. Donc, pas de frappe du côté de l'Iran, puis on n'était pas prêt non plus, de l'avis des experts internationaux, de produire une arme nucléaire. Donc, non seulement tu es en guerre, non seulement ta guerre, elle entre sur le terrain de l'autre thème dont t'aimerais parler positivement, qui est l'abordabilité. Mais dans les deux cas, donc, tu vas à l'encontre de ce que tu avais promis. L'autre thème sur lequel Donald Trump s'était fait élire, c'est celui de l'immigration. Et j'écrivais d'ailleurs un texte là-dessus ce matin. Sur l'immigration, il y a moins de gens qui rentrent à la frontière, il y a une chute dramatique, mais, et là, ça rejoint le dossier iranien, on a procédé de manière illégale dans bien des domaines. Donc, les Américains disent, on est content qu'il y ait moins de monde, mais on n'est pas content que notre gouvernement soit dans l'illégalité. Et c'est exactement ce qu'on lui reproche aussi pour l'Iran. Donc, je répète, ça fait beaucoup, mais on est en année électorale. Et ces trois thèmes-là, ça devrait être trois thèmes forts pour les républicains. Aux démocrates de bien jouer leur carte maintenant. Moi, j'ai toujours hâte parce qu'ils sont très forts pour, en très mauvais français, scorer dans leur but, les démocrates. Mais c'est aux démocrates maintenant de prendre la balle au bon. Une élection de mi-mandat, c'est souvent une élection pour passer un message, l'administration en place. Et là, en plus, dans les sondages, cette administration-là, elle ne va pas bien.
Pour rappel, on parle avec Luc Laliberté, spécialiste et chroniqueur pour nous en politique américaine. Luc, avec ce que tu viens de nous dire, les faiblesses de l'administration Trump, est-ce qu'il y a des chances que cette attaque-là sur l'Iran soit un succès pour Donald Trump?
On est toujours dans ce qu'on est en train de faire. J'aime bien que tu me relances comme ça parce que ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de commenter une capture d'écran. On est dans la deuxième semaine de ce conflit-là. Et je répète, le gros manque pour nos analyses, c'est que le manque de transparence du côté de l'administration, c'est qu'on ne connaît pas encore les objectifs réels. Pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on souhaite obtenir? Et au bout de plus d'une semaine de conflit, je suis pas certain qu'on est plus avancé pour déterminer les objectifs à la fin. On le dit, par exemple, et ça aussi Pascal le relayait dans les manchettes, on vient de se donner un nouveau guide suprême pour l'Iran. C'est un appareil très l'appareil iranien, et il est fait pour survivre aux pires attaques. Qu'on ait enlevé Khamenei, le père, on était, entre guillemets, prêt à ça. D'ailleurs, il était âgé, souffrait de problèmes de santé.
Mais là, Luc, avec si le fils qui reprend les règnes de l'Iran, il n'y a pas grand-chance que ça se règle de façon diplomatique, là.
Peu de chance de façon diplomatique, mais aussi peu de chance de la façon dont, parce qu'il ne faut pas oublier Israël, la façon dont Israël et les États-Unis frappent. Et c'est pour ça qu'on a commencé à évoquer, et ça non plus, je pense pas que les Américains vont l'aimer, je parle de la population américaine, on a dit ça va prendre, l'expression consacrée en anglais, c'est des boots on the ground, des bottes sur le terrain, ça veut dire des militaires. On parlait la semaine dernière de s'entendre avec les Kurdes, en tout cas certains groupes parmi les Kurdes, parce que c'est un gros ensemble de nombreuses organisations, les Kurdes, mais on n'est pas équipé non plus chez les Kurdes pour déstabiliser complètement un régime. On peut l'affaiblir, on peut l'occuper, mais c'est pas assez pour un changement de régime. Et c'est là où je reviens avec la question, puis j'ai pas encore de boule de cristal dans ce dossier-là non plus, mais les Américains visent quoi? Juste rendre ce régime-là peu opérationnel, puis on va être content avec ça? Ou si on souhaite vraiment un changement de régime du côté de l'Iran? Mais ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est terrible. Puis en passant, ceux qui ont le peuple iranien à cœur, oui, c'était une bonne nouvelle qu'il soit débarrassé de Khamenei, mais pour l'instant, je ne suis pas certain que l'intervention américaine fournisse les conditions nécessaires à ce qu'eux prennent leur destin en main. Donc, pour ceux qui pensent aux Iraniens sur le terrain, la situation est absolument horrible.
Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine, chroniqueur ici à Boulevard 101, je te remercie infiniment pour ta présence cet après-midi avec nous, puis au plaisir de se reparler. Malheureusement, on devrait se reparler encore en moment de guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.
Oui, hélas. Une bonne fin de journée aux auditeurs, puis une bonne fin de journée à l'équipe. Bye.
Merci. Salut, Luc. Luc Laliberté, que vous pouvez entendre régulièrement sur nos ondes, que ce soit ici dans l'émission On en jase ou le matin, dans Marceau le matin. Ce qu'on se rend compte, Pascal, c'est que oui, Donald Trump a enlevé Nicolas Maduro du Venezuela. Oui, il a tué M. Khamenei, mais c'est encore les mêmes régimes qui sont à la tête de ces pays-là. Donc, normalement, quand tu fais une intervention de ce type-là, c'est pour amener une démocratie. Et là, cette partie-là, Trump n'est pas capable de l'amener, de le faire.
Bien, c'est sûr que non, parce que souvent, ils sont organisés hein, au niveau de ce qui se passe en Iran. Ça fait des années qu'ils ont instauré la façon de gérer. Ça fait des années qu'ils ont leur groupuscule de gestionnaires. Puis c'est aussi le peuple. C'est le peuple qui doit vouloir prendre un peu d'assaut leur futur.
Oui, puis dans le cas des Iraniens, mais là, quand le centre-ville est bombardé, puis qu'il y a eu des dizaines de milliers de nos concitoyens qui ont été tués, abattus lors de manifestations, ben t'es moins propice à sortir dans les
rues. Ils sont opprimés. C'est la même chose du côté du Venezuela. Alors, c'est pas peu facile. C'est vraiment difficile de renverser un régime qui, depuis des années, est à la tête d'un pays.
Dans un instant, Boulevard Boulevard 102 à l'émission Nageuse. On va parler avec Catherine Roy, journaliste à TVA Québec. On revient sur cet accident mortel tragique d'un autobus scolaire ce week-end à Sainte-Rose de Watford. Xavier Landry-Rousseau, 13 ans, qui a perdu la vie. On souhaite nos sympathies à la famille. On va revenir sur le fameux port de ceinture de sécurité. Est-ce que ça prend des ceintures de sécurité dans les autobus scolaires? Et également, on va parler avec notre chroniqueur sportif Alex Laramé du week-end du CH, mais surtout de cette énorme signature dans le monde du sport, Kenneth Walker, 3e, le joueur le plus utile du dernier Super Bowl, s'en va où? On vous dit ça dans un instant à Boulevard 102.1.